Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM dans votre émission Time Sport, la quotidienne sportive sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité. Je tiens bien à le rappeler. On les écoute ce soir du côté de Bastia, le 92.8 et sans oublier Carcassonne, le 107.3. Au menu de l'émission ce soir, en ce mardi 4 octobre 2022, on verra quoi. On parlera de ce Marseille, et oui, Marseille, la victoire à tout prix. En tout cas, le match a commencé à 18h45 du côté du Portugal et Marseille. Donc, à la mi-temps, l'emporte, excusez-moi, du côté de Marseille, non pas au Portugal, parce qu'ils rencontrent, ils reçoivent le Sporting du Portugal en leur terre marseillaise, et 3-1 à la mi-temps. On parlera aussi de l'Inter qui rencontrera le FC Barcelone, et l'Inter veut vraiment cette peau des Blaugrana. Et oui, on en parlera, ces soirées de Ligue des Champions ce soir sur l'antenne de Beurre FM, et pas de fête pour le Mondial 2022. On reviendra avec toute l'équipe de Time Sport concernant ce fameux Mondial 2022 au Qatar, sans oublier aussi le magnifique ouvrage qu'on essaie de vous faire remporter, rien de plus simple. Vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000, Les années Hamilton par Frédéric Ferré aux éditions Solar. Ce soir nous accueillerons l'illustre, la grande star Mohamed Sissoko, ancien joueur passé par le Paris Saint-Germain, la Juventus, le FC Valence ou encore Liverpool. Il sera avec nous dans un laps de temps, et sans oublier aussi le débat du jour. Le débat du jour, on le rappelle, rien que pour vous, chers auditeurs, l'OM doit-elle continuer en Ligue des Champions? Allez, vous nous appelez, le 01 53 48 3000, et on va commencer cette émission. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport. Time Sport. Et pour parler.
Eh oui, ce soir pour m'accompagner, on aura Diane, sans oublier le coach Tollé. On aura aussi Toto Bellozzo. Eh oui, allez Toto Bellozzo qu'on retrouve cette semaine. Comment ça va Toto?
Salut Bilal, ça va et toi?
Tu vas bien? Ça va très bien. Toto Bellozzo, tranquillement.
Ouais. Ce début de milieu de semaine, je sais pas si ça a un sens ce que je viens de dire, mais en tout cas voilà. Bon, ce mardi, sympathique, ça va bien.
Ah ben ça va très très bien. Avec lui, on aura aussi Louis-Marie. Comment ça va Louis-Marie?
Ça va super bien. Toto est déjà très très chaud depuis tout à l'heure.
Ouais.
Grosse ambiance sur le plateau. Ouais.
On
est très en mode déconne.
Ah, juste en face de Louis-Marie.
Toujours avant les émissions. Moi,
Oui.
Ça me galvanise, ça me donne envie.
Ah ben lui, il est bien galvanisé, il est bien sapé comme jamais ce soir. C'est Vivien. Comment ça va Vivien?
Bah ça va. Bah écoute, là on est en soirée Ligue des Champions, donc faut faire monter le niveau vestimentaire, faut faire.
C'est ça le côté Marcel Desailly que j'ai vu.
Comme un promoteur.
Lui c'est Marcel Desailly. Du coup, côté, on est en rue de Gullit, on ne sait pas où il est.
Il est resté sur le banc comme Payet ce soir, et ça marche bien en tout cas.
Ouais, juste en face, on peut retrouver l'illustre fils à Ruth Gullit, c'est bien ça. Voilà, il est avec nous ce soir. C'est le coach Tollé. Comment ça va le coach?
Bonsoir tout le monde, ça va bien.
Ça va bien. Et là, le sourire, on ne sait pas pourquoi, justement.
Le sourire.
Ah bah oui.
Même quand l'OM prend 6-0.
Ah bah voilà, 6-0 dans la Youth League. Alors justement, on peut en parler, le coach Tollé, avec toi, avec Vivien, avec tout le monde autour de ce plateau. C'est vrai, 6-0 par les joueurs du Sporting.
Ça fait mal.
Ça fait mal.
Après, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Je sais que pour prendre le positif, il y a un travail qui est en train de se mettre en place au niveau de la formation depuis que Longoria est arrivé, même un petit peu avant. Il y avait une prise de conscience. Après, est-ce que c'est de la communication? Mais en tout cas, il y a un vrai travail de fond avec notamment l'ancien directeur du centre de formation de Valence qui est arrivé, etc. Maintenant, comme tout projet de jeune, ça prend, ça va pas venir tout de suite. Hein, ça prend quoi?
Ça fait déjà quand même longtemps que le projet formation à l'Olympique de Marseille a calé.
Si on ça fait 40 ou 50 ans que le projet n'a jamais décollé.
Selon vous, quand même.
De projet.
Il n'y a jamais eu de formation à l'OM.
C'est bien ce qui est malheureux, justement, Jean-Claude. Jean-Claude Godin, c'est Marseille.
Jean-Claude, moi,
voilà. Ancien maire de Marseille.
Voilà, mais je trouve que le projet marseillais, au niveau de la formation qui est inexistant, c'est une anomalie totale au vu de ce que. Déjà le bassin de population que représente la région PACA, qui est la deuxième région la plus dense en termes de joueurs en France. Et puis si on devait comparer le centre de formation de l'OM, c'est comme si tu avais une usine de voitures qui arrivait à sortir une voiture tous les 10 ans. Enfin, à un moment donné, je compare pas les joueurs à des voitures, mais le produit fini, hormis peut-être des joueurs comme Flamini, Nasri, mais voilà,
tu parles de joueurs d'il y a 10-15 ans, là, maintenant.
Oui, voilà, déjà 10-15 ans, et qui sont très rares.
C'est le dernier. Mais c'est vrai que, pour suivre la formation marseillaise, tu commences à avoir des joueurs en sélection U16, U17, U18, mais même ces mecs-là, de toute façon, ne franchissent même pas le palier, et lorsqu'ils partent ailleurs,
Bon, après, il faut quand même se le dire, les sélections U16, U17, U18, je ne dis pas que c'est une escroquerie, mais ils viennent souvent des mêmes clubs. Il y a moins.
Ouais.
C'est rarement les vrais meilleurs joueurs de leur génération.
Ouais.
Là, on voit bien qu'à l'OM, ça ne forme pas. Et ce qui est dommage, c'est qu'un club bien structuré, tous ces seconds couteaux, tous ces remplaçants, tous ces joueurs de complément, ce doit être des joueurs sortis du club parce que ça permet de boucher les trous. Ouais, que tu sois pas capable de sortir des stars à l'appel comme le fait l'Ajax ou le Barça, ok, très bien, t'es pas obligé d'avoir ce savoir-faire là, mais au moins d'être capable de boucher les creux de temps en temps. Et même ça, l'OM n'est pas capable de le faire.
Pour corroborer ce que t'es en train de dire, faut savoir que l'Olympique de Marseille, petite nouveauté, même si c'était une réalité, mais qui n'était pas officiellement existante, l'Olympique de Marseille a aujourd'hui des scouts en Ile-de-France. C'est-à-dire que Marseille, avec toute sa dimension identitaire, qui veut justement se montrer face à l'omnipotence parisienne, se montrer indépendant, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille vient prendre des joueurs d'Ile-de-France.
Oui.
Chose que je dis,
c'est riche,
ils étaient au fin fond de la
France.
Le
problème, c'est qu'ils ne viennent pas prendre la meilleure. Donc,
voilà, pour reconnaître un peu les joueurs qui ont signé dernièrement, ça reste des bons joueurs. Mais je trouve complètement anormal, au vu de la dimension du club, du bassin de population et de la culture football de cette région et de cette ville, d'avoir une formation aussi peu, voire même complètement inexistante.
Ouais.
Et de se prendre 6-0 contre le Sporting.
J'ai bien peur que malheureusement ça soit volontaire. Comment tu peux rester des décennies avec un centre de formation aussi catastrophique quand tu t'appelles Olympique de Marseille et quand tu entends quelques histoires? Bon, t'es pas malheureusement.
Ouais. Quand tu vois le nombre de mails qu'ils ont laissé passer.
Il y a trop de. Voilà, il y a beaucoup de gens qui profitent, c'est un peu le bordel.
Je pense que tu mets le doigt sur un problème. Il y a dans les dessous.
Quand même, on est un peu sévère là. On parle de son centre de formation. On va parler plutôt du match de ce soir. 3-1, groupe D, 3e journée, Louis-Marie. C'est pas rien quand même, Vivien.
C'est pas rien. Ouais, on va dire qu'ils peuvent dire merci à Adan qui a fait n'importe quoi. Le gardien Lisboète, ça a été
Antonio Adan
en première mi-temps. Ouais. Les deux premiers buts, ils sont pour lui. Et puis derrière, il se balade hors de sa surface à prendre des ballons volontairement pour prendre un rouge gratos. Il nous a fait un one-man show absolument improbable, ce gardien, capitaine de l'équipe. Bon, on lui dit merci parce que c'était quand même pas bien parti. Après, encaisser un but à 55 secondes, c'était chaud.
Ouais, mais je suis pas totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'ils prennent le but gag au bout de 52 secondes. Par contre, derrière, dans l'intensité, dans ce qu'ils ont démontré, il y a rien à dire.
Non, c'est bien.
Bien aidé par le gardien. Ah,
sacrément aidé.
Ils n'avaient pas besoin de ça. Mais dans l'intensité, dans ce qu'ils essayaient de proposer, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Marseille.
Je suis d'accord, mais disons.
La deuxième mi-temps a bel et bien commencé.
Mais disons qu'il faut quand même le déclencheur, ce premier but qui rentre. C'est bien d'avoir un petit coup de pouce parce qu'ils auraient pu galérer pendant un moment.
Si tu butes, ça peut être compliqué ensuite.
Ouais, Vivien et Toto Bellozzo sur Marseille, Sporting.
Clairement, on voit les changements de Tudor par rapport au match d'avant. C'était très mou contre Francfort. Enfin, les trois de devant, je trouve ça n'a rien à voir. D'avoir un Harit dès le début, ça, on voit qu'il y a beaucoup plus d'intensité. Ça presse très haut. Enfin, ça n'a rien à voir. Là, on a vraiment une équipe qui joue avec une envie de se qualifier.
Là, qui joue avec une envie, une grosse envie. Tu dis Harit, Under aussi.
Oui, bien sûr.
Des mecs qui sont capables de rentrer, de provoquer, de mettre de la pression. Et derrière, quand tu es aussi Guendouzi qui est un peu plus bas que Veretout, c'est autre chose. Même si, attention, Rongier a fait un bon début de saison.
Il aurait pu prendre un rouge sur une petite claque en fin de mi-temps, bêtement.
Mais il a quand même un volume de jeu qui est extrêmement intéressant lorsque tu étais amené à récupérer quand même des ballons. Et là, c'est clair que ça a payé. Il y a rien à dire, tant mieux.
Toto Bellozzo, il faut que ça dure sur Marseille.
Moi, j'aime bien, vous avez fait
référence
à Guendouzi qui reste un joueur. Moi, je vais me détacher un petit peu de l'analyse tactique de ce match que je pense qu'on va attendre la fin vraiment pour faire une vraie analyse technique.
Ouais.
Mais en tout cas, voilà, vous avez souligné le nom de Guendouzi. Moi, ce que je voulais dire depuis pas mal de temps, même si ce joueur, du point de vue technique, ne fait pas partie des meilleurs, moi, il n'est pas sans me rappeler un certain Marcel Dib, des joueurs comme Pardo, des joueurs avec beaucoup d'intensité,
l'époque des Minots, à l'ancienne.
Il colle vraiment avec cette image de l'Olympique de Marseille. Et ce que je voulais rajouter par rapport à Marseille, c'est que on voit à combien ce club est tombé. Si je puis me permettre, déjà la dernière fois on était content d'avoir fait une belle défaite quand on sait le passé, l'image qu'avait l'Olympique de Marseille en Europe. Je trouve que se contenter d'une belle défaite c'était grave, et aujourd'hui on arrive à avoir une victoire et on arrive à être plus que contente d'arriver enfin à gagner.
Allons revenir sur cette victoire peut-être de l'Olympique de Marseille, messieurs. On va faire une courte pause avant de revenir avec notre invité, Momo Sissoko, on le rappelle, sur l'antenne de Beur FM. Et sans oublier ce match qui oppose Marseille au Sporting du Portugal.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beur FM.
Et de retour sur l'antenne de Beur FM, voilà, nous avons été rejoints par notre consultante, la fabuleuse Diane. Bonsoir Diane. Voilà. Il y a des petits problèmes ce soir, hein, dans toute la France. Hein.
Apparemment, Diane vient faire un combat de MMA pour
remporter. Non, quand même, arrête, dis bien. Mais le mari, c'est. Non.
Là, ça coupe, on dirait que ça a été. Ça a
chauffé.
Mais non. Le 0153483000 pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Il est 20h22 en ce mardi 4 octobre. Marseille joue actuellement sa seconde période face au Sporting du Portugal. Et justement, pour le moment, le score est de 3-1. Pour l'Olympique de Marseille. L'OM doit-elle continuer en Ligue des Champions ? C'est parti.
Time Sport. Les pourparlers.
Voilà. On a encore des pourparlers, justement, avec lui, Marie. Parce qu'il aime bien ce genre de questions. C'est le débat du jour avec nos auditeurs. Justement, lui, Marie. Marseille doit-elle s'arrêter là ? Alors, ou peut-être continuer ?
Ils doivent essayer jusqu'au bout, alors. Moi, je t'avoue, hier, quand j'ai écouté la conférence de presse de Tudor, j'ai halluciné d'entendre un coach qui explique qu'après deux défaites, faut au moins mettre un point. J'étais un peu étonné de ce manque de motivation. Parce que franchement, c'était la dernière chance. Si t'expliques qu'il faut au moins mettre un point à domicile contre le Sporting, c'est que t'as aucune ambition. Mais concrètement, le match est tellement en train de tourner en leur faveur qu'il y a vraiment moyen de revenir dans cette compétition.
Ouais.
Parce qu'avec l'effet de jeu, s'ils font le match jusqu'au bout, ils peuvent mettre peut-être un ou deux buts de plus et vraiment prendre un avantage sur le Sporting à la différence de buts particulière. Ils ont le match pour se relancer et pour y croire. Donc, bien sûr qu'il faut la jouer à fond.
Oui, Toto Bellozzo.
Il n'y a que chez nous, qu'on se pose ce genre de questions.
Ah, bah oui.
Très honnêtement.
Ah, bah oui.
Non, mais Bilal, moi,
Mal de questions. On attend au tournant, Diane. Mais t'inquiète pas, il y en a pas mal ce soir de questions. Mais je rigole pas, je suis sérieux.
Quand tu dis chez nous, tu parles bien de la France, pas de l'émission.
Oui, c'est bien, c'est bien que tu le précises. Mais oui.
Ouais, arrête-toi, Vizia.
En France, finalement, on arrive à se poser la question, est-ce qu'on doit continuer ou pas? C'est tout droit. On va en Ligue des Champions, c'est pour la jouer à fond.
Ouais.
Tu gagnes et
tu fais un
parcours. Les parcours, tu sais, ils se dessinent jamais à l'avance. Et parfois, regarde, la preuve, la France a été championne du monde. On a été champion du monde en cours de route. Hein, on a été moribond pendant les groupes. On finit champion du monde, certes d'une manière particulière, mais on finit champion du monde. Donc voilà, il faut pas se poser de questions. C'est une compétition qu'il faut jouer à fond et faut arrêter de la jouer petit bras. Et nous, en France, malheureusement, depuis trop longtemps maintenant, quand on arrive en Europe. Oui, est-ce qu'on doit continuer ou pas? Championnat, ouais. Et la coupe, allez, vas-y.
C'est vrai, il faut la jouer. Le coach Tolé, mon regard de travers, mais c'est vrai, coach, on a eu pas mal de discussions sur cette antenne au sujet de tous les clubs français de jouer vraiment ces coupes européennes.
C'est surtout un problème de mentalité que l'on a en France, où on se demande si on doit jouer. Moi, j'ai jamais entendu.
Alors,
moi,
le coach.
En étant dans la compétition. Tu t'amuses pas à choisir des compétitions, ça n'existe pas, faut arrêter. Alors après, tu as des personnes malveillantes. Qui se permettait de dire ah oui mais avec l'effectif tu dois jouer la conférence, l'Europa League, mais
ouais.
N'importe quoi,
ouais.
Tu joues toutes les compétitions à fond, malheureusement il n'y a pas la place pour tout le monde, et quand tu ne peux pas atteindre la Ligue des Champions, tu tapes l'Europa League ou l'Europa Conférence, mais t'es pas en train de dire ah ouais alors là l'effectif que l'on a c'est pour jouer, non ça c'est n'importe quoi, ça déjà il y a un problème de mentalité. J'irai pas au-delà parce que c'est un faux problème.
Ouais,
mais
encore.
C'est un problème qui est quand même grave à l'image de ce que l'on retrouve dans le sport français et notamment malheureusement
ouais.
Le football.
Diane, on poursuit avec toi dans le sport, cette mentalité, encore une fois.
Oui, encore une fois, pour moi, cette question, c'est complètement. C'est un non-sens total. Quand on regarde un petit peu l'historique des clubs, on voit bien que le nombre de participations aux Ligues des Champions, c'est quelque chose qu'on regarde, c'est quelque chose qui compte. Que l'OM ait l'effectif ou pas, quels sont les grands joueurs pour pouvoir jouer, la santé pour pouvoir aller au bout, elle est qualifiée en Ligue des Champions. Il y a très peu de clubs qui le sont, donc elle va jouer comme elle peut cette Ligue des Champions. Si elle peut aller au bout, elle ira au bout. Mais je crois que la seule vraie question à se poser, c'est pourquoi les autres clubs ne sont pas en Ligue des Champions. L'OM y est, pourquoi elle s'arrêterait maintenant? Pour moi, c'est pas. Encore une fois, je rejoins ce côté un petit peu de mentalité et c'est une question qui doit être posée par des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. Quand on est sportif, quand on a une compétition telle que celle qui est la Ligue des Champions, on va jusqu'au bout et on se donne les moyens de faire le maximum qu'on peut avec les moyens du bord.
Non, mais c'est sûr, on est tous surpris alors, quand on est extérieur au foot français de ce genre de questions. Mais ce qui soulève ces questions,
alors c'est
un petit peu ce qu'on entend dans les conférences de presse. C'est ce que j'entends hier avec Tudor. On n'a pas l'impression qu'il a envie de gagner ce match. Finalement, on a l'impression que c'est pas important.
Ah bon?
C'est quand il t'explique que un point c'est pas mal et que finalement machin, il laisse entendre que il la joue pas à fond, que c'est pas un objectif délirant.
Et il prépare les gens à la défaite.
Voilà, il prépare les gens à la défaite. Il prépare les gens à dire on visera autre chose et finalement c'est pas un objectif. Il y a un petit peu de ça dans les coachs. Ouais. Parfois dans les coachs, dans les accordements français.
Le plus important c'est ce qu'il dit dans le vestiaire aux joueurs.
Ouais, mais quand t'es joueur,
la conférence de presse.
D'accord, mais quand t'es joueur, comment est-ce que t'imagines un grand entraîneur?
Tu crois vraiment qu'il leur dit dans le vestiaire, bon bah les gars, prenez au moins un point?
J'en sais rien, mais il n'empêche, quel est le message que t'envoies? Est-ce que t'imagines dans d'autres clubs, dans d'autres championnats, un entraîneur dans cette situation dire la même chose?
Ouais, mais attention,
il y a
une lecture qui est différente. Nous, on a une grille de lecture de supporters, d'amateurs de foot qui voulons la belle histoire.
Ouais.
Nous, ce qu'on veut, c'est la belle histoire, c'est de vivre quelque chose. J'arrive à concevoir que quand t'es de l'autre côté, c'est-à-dire du côté technique, tu sois un peu plus pragmatique et que tu te fies à la réalité du terrain, c'est-à-dire que peut-être que Tudor lui se dit bon, de toute façon on fera pas grand-chose d'un point de vue factuel.
C'est Sporting c'est pas Barcelone.
En Ligue des Champions,
hein.
Et qu'on va essayer d'être d'accord. Au mieux en championnat. Et ça, il faut toujours aussi un petit peu nuancer nos propos dans le sens où nous, c'est normal, on veut que ça joue à fond, on veut voir les choses se faire sans demi-mesure.
Ouais, mais c'est le football français qui pense comme ça. Si tu regardes dans les autres sports, ça existe moins.
Quels sont les objectifs qui ont été clairement établis par l'OM en début de saison? Est-ce que c'est la Ligue des Champions ou est-ce que c'est le championnat français? Si l'objectif qui a été clairement défini, ça a été de prendre la première place pendant le championnat français, je peux comprendre que la Ligue des Champions, ça devienne l'objectif B, et on va la jouer comme on peut la jouer et aller là où on peut aller. Donc on va aller prendre un point. Mais de se poser la question de est-ce que l'OM doit quitter la Ligue des Champions, ils vont pas se pointer demain à la Ligue des Champions en disant hey les gars, nous on arrête. Salut.
Ouais.
Je pense malheureusement que c'est très parisien.
Ouais.
Je pense que.
Alors, le coach de Tolé. Avant de retrouver Momo Sissoko.
Derrière tout ça.
C'est facile d'attaquer le Paris.
Oui, mais
ça jouera demain, le Paris Saint-Germain.
Totalement. Je pense que derrière la mascarade qu'a représenté l'OM sur les campagnes européennes, je parle bien en Ligue des Champions, parce que sur d'autres compétitions, ils ont quand même été en finale. Je pense qu'il y a cette envie, malheureusement, de personnes parce que l'OM se casse la gueule, que l'OM ne réussisse pas, au même titre, à d'autres degrés, que le Paris Saint-Germain. Ça faut pas faire de langue de bois là-dessus. Donc après, ce qui est la réalité, c'est que tu as simplement le PSG qui peut rivaliser avec les autres grandes d'Europe en Ligue des Champions. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Et encore une fois, il y a ce problème de mentalité où.
Pourquoi chercher toujours une rivalité Paris-Marseille en fait?
Oui, mais elle existe.
Non, elle existe.
Elle existe pendant le championnat, Ligue des Champions, donc ils ne sont pas en finale.
Oui,
l'un contre l'autre.
Mais là, je parle de supporters. Ça chambre un petit peu.
L'antagonisme reste pour moi, même si on est en Ligue des Champions, on reste. Il y a un antagonisme qui reste. C'est comme ça, c'est dans le football, ça existe. Et on ne peut pas faire outre. Maintenant. Là où il faut se poser la question, c'est est-ce qu'on a la possibilité de jouer sur les tableaux? Après, d'un point de vue pragmatique, est-ce que c'est possible? Est-ce que l'Olympique de Marseille a les armes pour pouvoir le faire?
Allez, place à l'invité de ce soir, on y va.
Timesport, the special one, the special one.
Bonsoir Momo Sissoko, comment allez-vous?
Bonsoir, ça va et vous?
Ça va très très bien Momo Sissoko, vraiment un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité, ce soir avec nous l'émission Tamsport. Justement, on aimerait revenir un peu avec vous. On le rappelle, vous êtes passé par le Paris Saint-Germain, mais aussi la Juventus de Turin, Liverpool, les Reds, sans oublier aussi Valence. Ce soir, vous êtes avec nous. Un petit mot concernant le match de ce soir, allez, qui oppose Marseille au Sporting. On parlait de ces Marseillais, doit-il rester justement sur cette fameuse Coupe européenne ou peut-être se concentrer sur le championnat de France avec l'effectif qu'ils ont? Mais Marseille, c'est vrai qu'essaye d'exister, essaye justement de créer cette fameuse surprise dans ce fameux groupe. 3-1 sur la seconde période face aux Portugais. Marseille peut le faire, cette qualification. On vous écoute.
Oui, je pense qu'ils peuvent le faire avec l'effectif qu'ils ont. Je pense qu'ils ont les armes justement pour pouvoir exister en Ligue des Champions. Maintenant, c'est vrai que ça va être un match très compliqué, surtout contre une équipe portugaise qui est bien fournie. Donc maintenant, il faut s'attendre à un match très élevé ce soir, surtout devant leur public. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais bon, je pense que Marseille a les armes justement pour pouvoir rivaliser en Ligue des Champions.
Allez, le coach Tolé, peut-être, pour, allez, pour réagir avec Momo Sissoko.
Surtout, attends, l'OM quand même mène là,
3-1,
donc à eux 65e. Va falloir ensuite, après, si le score reste là, confirmer au match retour et prendre des points contre Francfort et Tottenham. Donc, c'est jouable, mais ça sera quand même... difficile.
Difficile pour le club français, peut-être, mis à part le Paris Saint-Germain, que vous avez tant connu, Momo Sissoko.
Oui, bah écoutez, le Paris Saint-Germain, clairement, ils sont armés justement pour gagner cette fameuse Ligue des Champions, qu'ils attendent depuis un certain moment. Maintenant, voilà, ça va jouer sur les détails, ça va jouer sur justement sur comment les trois de devant vont réagir, l'après-Coupe du Monde, donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Mais en tout cas, ils sont armés justement pour pouvoir aller au bout de cette compétition.
Allez, Louis-Marie qui poursuit avec vous, monsieur Sissoko.
Salut Momo. Bah écoutez, moi je voulais vous poser une question en tant qu'ancien du PSG qui avait connu cette ère Qatari un petit peu au début. Moi, il y a quelque chose qu'on se pose souvent autour de cette table, c'est est-ce que le PSG n'est pas handicapé par sa direction ? Est-ce qu'il manque pas une tête forte au PSG ? Et vous, comment vous l'avez ressenti cette direction au PSG ? Est-ce qu'il y a une vraie institution forte qui est capable de cadrer les joueurs ou c'est un peu le club med parfois ?
Non, clairement, je pense qu'avant, c'est vrai que c'était un peu le club med. Il y avait beaucoup de choses extra-sportives qui étaient là et qui malheureusement a nué beaucoup à l'équipe. Mais maintenant, je pense qu'avec un homme fort comme justement Galtier et comment il s'appelle le nouveau directeur sportif comment il s'appelle
Ocampos.
Ocampos. Je pense que c'est deux hommes forts avec fort caractère qui peuvent cadrer les joueurs à fort caractère avec beaucoup de personnalité aussi.
Ouais, mais viens, on poursuit avec oui. Momo Sissoko.
Bon, en soirée de Ligue des Champions, pour ouais. vous, est-ce que vous pourriez rappeler à vos auditeurs quel est pour vous peut-être votre meilleur souvenir dans cette compétition prestigieuse durant votre
moi, clairement, le meilleur souvenir, c'est clairement la finale qu'on a perdue malheureusement.
Ouais.
Mais voilà, le fait d'arriver en finale avec Liverpool, pour moi, c'était quelque chose de formidable. Maintenant, voilà, c'est malheureusement on l'a perdu contre le Milan AC. Mais voilà, ça reste quand même une bonne épopée de notre part et je suis vraiment fier d'avoir joué au moins une finale de Ligue des Champions.
Oui, Toto Bellozzo avec Momo Sissoko, notre invité ce soir sur l'antenne de Beurre FM.
Bonsoir Mohamed, j'avais deux questions justement concernant des sujets qu'on a abordés dans l'émission,
ouais.
sur lesquels j'aimerais avoir un petit peu ces éclaircissements. Concernant la première question, c'est concernant la mentalité dont on faisait allusion ouais. tout à l'heure, la mentalité un petit peu française. Toi qui as connu les grands championnats européens,
il a de l'expérience,
peut-être hormis la Bundesliga, ouais. il a connu le Calcio, la Première Ligue, la Liga et la Ligue 1. En termes de mentalité, concernant la culture de la gagne, comment est-ce que tu places le curseur justement du côté de cette envie de gagner, de cet esprit de compétition, comment est-ce que tu le perçois?
Ben, je le perçois, c'est vrai qu'en France on a tendance à justement à rester sur nos acquis, mais c'est vrai que quand tu vas à l'étranger tu t'aperçois que clairement il y a cet ADN-là que quand tu arrives dans le club, on te le met direct hein, cette mentalité de gagner, de malgré même si tu fais un bon match, toujours te remettre en question. Et c'est vrai qu'à l'étranger c'est ancré dans les joueurs, donc c'est vrai que c'est notre mentalité, on va dire.
Ouais, parce que tu sais aujourd'hui, enfin je sais que tu t'occupes aussi un petit peu, tu as un regard sur le football de jeunes et notamment sur le football d'Île-de-France où c'est justement cette culture et cet amour de gagner à tout prix, peut-être au détriment à un moment donné de la formation et de certains autres aspects de la tactique, et justement on est un peu trop dans la gagne. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le pont entre cette mentalité et le football professionnel en France où j'ai l'impression qu'au niveau des clubs, au niveau des joueurs, on est très gagneur, on est très gagnant, et au niveau des clubs, on la joue peut-être un peu plus nuancée.
Ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. C'est vrai que c'est une réalité. C'est vrai qu'en France, on a un vivier de jeunes très important. On a des joueurs forts, très techniques, des joueurs qui, justement, le championnat en Île-de-France, surtout en Île-de-France, on a tous les week-ends, on a des matchs très intéressants avec beaucoup de qualité. Mais c'est vrai que quand on arrive au-dessus, c'est vrai qu'on n'arrive pas justement à leur retransmettre sous cette envie de gagner aux joueurs. Et c'est vrai que ça, c'est une chose qu'il faut améliorer si on veut aller au bout dans chaque compétition.
Ouais. C'est vrai qu'on est beaucoup dans l'industrie du joueur et pas dans l'industrie du jeu, malheureusement. Et ça
ouais. se retransmet pas. Justement, Momo Sissoko, il est avec nous. Avant de vous laisser filer, par rapport à votre expérience, vous pensez être le mieux placé pour orienter, excusez-moi, cette nouvelle jeunesse la jeunesse. Eh oui. Vous le disiez, ça, lors d'une interview, Momo Sissoko.
Alors, aujourd'hui... en tout cas, on essaye. On essaye à notre niveau de,
le faites bien.
De leur transmettre toute l'expérience qu'on a pu accumuler durant notre carrière. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile, parce que c'est vrai que maintenant, la jeunesse, ils ont tendance à vouloir brûler les étapes. Mais je pense que les jeunes joueurs en France, ils ont la qualité justement pour pouvoir aspirer à être des futurs ballons d'or ou aspirer à être de grands joueurs. Maintenant, c'est juste ces petits détails-là qu'il faut leur retransmettre et je pense que ça va aller dans l'avenir.
Momo Sissoko, en 5 minutes de terrain du côté aussi du Paris Saint-Germain. On le rappelle pour les auditeurs de Beur FM, votre pronostic sur cette édition 2022-2023 de la Champions League. Le PSG peut-il la remporter, cette fameuse Champions League, la coupe aux grandes oreilles? Selon vous, le pronostic, le vainqueur?
Ah, le vainqueur, c'est très compliqué. Ouais. Très compliqué. Ouais, je pense que le Paris Saint-Germain est armé.
Il faut
s'attendre aussi attendre des équipes comme le Real de Madrid, de Bayern Munich. Manchester City, je pense que cette année, ils voudront absolument la gagner. Donc, ça va jouer sur les détails. Et je pense que City, cette année, est armé pour pouvoir aller au bout.
City, allez, ça sera les derniers mots de Momo Sissoko. Un grand merci d'avoir été avec
merci
nous
vous.
Pour l'immense plaisir des auditeurs
bonne
de Beur FM.
Bonne soirée à tous.
Très bonne soirée, Momo Sissoko. Ouais. Allez, vous restez avec nous. On va marquer encore d'une dernière pause avant de revenir avec le Qatar 2022 et aussi l'Inter Barcelone. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beur FM.
Et de retour sur l'antenne de Beur FM pour la dernière partie, 20h42, toujours 3 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille face au Sporting en Ligue des Champions.
Mais laisse-tu faire sa dédicace.
Groupe D, troisième journée, c'est Diane, voilà, qu'on retrouve avec Vivien, Louis-Marie, sans oublier le coach Tollet, c'est Toto Bellozzo. Allez, vas-y, avant de parler
moi,
de l'Inter.
Je peux pas faire d'émission sans faire une petite dédicace.
Allez, la dédicace. On l'écoute.
Je voulais faire cette dédicace.
Est-ce que tu vas commencer par Fihratar Innes?
Non. Vas-y, non, fais-le toi. Fihratar la famille de JN. Sec! Non, mais.
Alors.
Non. Moi, je voulais faire une grande dédicace à Issa Samake, qui est un coach de boxe anglaise, qui coach son fils depuis pas mal d'années.
Voilà,
Bakary Samake, qui est une valeur montante de la boxe anglaise française. Je vous le dis, suivez Bakary Samake.
Bakary Samake.
Il a 18 ans.
Ok.
Il est passé professionnel au Luxembourg.
On va le suivre de près.
Il a aucune.
On l'invitera alors.
Eh ben, écoute.
Oui.
Je vais te mettre en relation.
Ok. On va se mettre en relation avec lui, c'est promis.
Vous
dites aussi là, Morel, le voir. Pour une interview, pourquoi pas dans la matinale. Le 01-53-48-3000. Allez, on prend le chemin de Giuseppe Meazza.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
C'est l'un des plus gros chocs de cette phase de poule de Ligue des Champions, justement. Dès ce soir, le groupe C, et on accueille les Barcelonais. Ce mardi soir, c'est les Interistes, de Milan. Et là aussi, avec 3 points, voire 2 points, ou même 0, le match s'annonce assez incroyable. C'est le plus gros match, Vivien, de ce soir.
Bah, ça, c'est toi qui le dis. On le verra à la fin de la soirée. Non, mais c'est vrai. On verra ça à 23h.
C'est la plus belle affiche.
Ouais. Oui, mais après, faut voir si. Plus sérieusement, c'est. Je crois le titre du CS, c'était l'Inter veut croquer Barcelone. Enfin, je sais plus comment on l'avait nommé. Enfin, peu importe.
Utile la peau de Barcelone.
Quand on voit l'Inter en Serie A, ils sont déjà à 8 points du leader. C'est assez compliqué. Donc. Quand surtout on pense à la première mi-temps du Barça à Munich, je me dis, est-ce que l'Inter va pouvoir résister et être réaliste sur les quelques occasions? Pour moi, ça va être le sujet du soir. Et là, quand on voit, malgré les quelques absences côté Barcelone, il y a toujours un Lewandowski qui marche un peu sur le en ce moment. Donc, moi, je pense que ça va être un match très, très compliqué pour les Interistes. Et s'ils arrivent à passer peut-être la première demi-heure sans encaisser de but, là, il y aura peut-être quelque chose à faire. Mais sinon,
les portiers, ça soit Onana ou encore Ter Stegen, seront bien là au rendez-vous, le Marais, en tout cas.
On verra. Honnêtement, je sais pas ce que peut donner cet Inter. Ils sont pas du tout convaincants en championnat, alors que le Barça s'est très très vite trouvé, malgré un gros remaniement d'effectifs. Donc sérieusement, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Alors, au-delà de ce match, à voir l'Inter sortir de cette poule. Ils me paraissent quand même très en dessous du Bayern et du Barça. Donc je suis pas sûr qu'on aura une vraie surprise dans cette poule. Et je pense que ça va dérouler pour les deux plus gros.
Oui, privé quand même de Brozovic et Lukaku, faut pas l'oublier, Toto Bellozzo, le coach Tollet, Diane, ce match-là.
C'est ça reste toujours des belles affiches. Maintenant, de là à dire qu'il y a un vrai déséquilibre entre les équipes. pas qui reviennent, qu'on se besoin d'être, de se régénérer. Je suis pas certain. Je sais pas. Moi, c'est le genre de match où je peux pas du tout prévoir l'issue. On peut avoir un visage du FC Barcelone qui peut être flamboyant comme
Oui, sur le match, je suis d'accord, mais sur la longueur de la phase de poule, j'ai du mal à voir l'Inter être capable de tenir la dragée haute aux deux autres. Parce que pour le coup, s'il y en a un des trois qui est capable de lâcher des points bêtement à Plzen, c'est eux.
Ouais, Foudil est d'accord avec ça.
Là, vous n'avez pas pensé aux auditeurs qui parient, qui comptaient sur vous pour la dernière analyse.
Le coach Tollet, allez, pour la dernière analyse.
Après, c'est un match de poule, c'est le troisième match.
Avant la dernière rubrique.
Voilà.
C'est toujours dur à pronostiquer ces matchs-là.
Allez, place à la dernière rubrique, excusez-moi, de l'émission.
Time Sport, le mode pressing.
On a de fameux polémistes ce soir avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, avant d'accueillir Vanessa à 21h jusqu'à 23h. Coupe du Monde 2022, justement. La ville de Paris annonce, le coach Tollet, à son tour, un boycott du mondial. La ville de Paris n'installera pas donc d'écran géant, Louis-Marie, et ne diffusera pas les matchs du mondial 2022, disputés, on le rappelle, du 20 novembre au 18 décembre prochain au Qatar. La capitale française rejoint la fronde menée par plusieurs villes françaises contre la compétition organisée dans le pays du Golfe. Alors, on va la laisser réagir en premier. Alors, on va laisser notre consultante Diane.
En fait, gros acte politique, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça va coûter au Qatar, le fait que des pays ou des villes comme Paris ne diffusent pas le match? En fait, d'un point de vue politique, ça n'a aucune action, ça n'a aucune retombée.
Il aurait fallu le faire peut-être 12 ans en arrière, voire 10 ans.
Oui, bon, après, quand on sait l'investissement des Qataris en France, faire ce genre d'action et en faire tout un pataquès pour dire, on suit un petit peu les politiques du moment, je trouve ça complètement ridicule de la part de la ville de Paris. Ça n'engage que moi, c'est mon avis. Là, c'est pas un avis de... C'est mon
on
n'a
pas peur c'est que le Qatar, à la fin du mondial, font les valises et quitte le navire.
Dans la même journée, on nous annonce que c'est le Qatar qui va faire les Jeux Olympiques d'hiver.
C'est l'Arabie Saoudite. C'est une énorme blague.
Mais voilà, cette action, c'est dans un violon, quoi.
Mais en plus, au-delà de ça, non seulement elle a tout à fait raison, mais là où c'est une énorme blague, c'est que, encore une fois, ça impacte qui? La population. Qui n'a aucune voix au chapitre là-dessus. En attendant, les politiques, les industriels continuent à bien commercer avec le Qatar, à se faire plaisir, à prendre le pognon. Mais ça, eux, ils n'ont pas de problème. Ah, ils s'en foutent parce qu'ils ne regardent pas sur l'écran géant, ils viennent pas dans les fan zones, ces gens-là. Par contre, l'homme de la rue, le peuple qui a envie de passer un bon moment, parce que lui, il n'a pas eu sa voix au chapitre. Si on lui avait demandé son avis au grand public, il n'aurait certainement pas donné la Coupe du Monde au Qatar. Bien évidemment que non. Mais aujourd'hui, c'est pas lui qui a décidé et c'est lui qui est sanctionné. C'est scandaleux. Et c'est effectivement un geste vraiment... Et Dieu sait que j'habite dans le 10e et je pourrais considérer comme un bobo, mais là, c'est vraiment une énorme blague. Il y a vraiment ce côté, les écolos qui sont plaisir.
C'est un bobo africain.
Un bobo africain. Bah, toi aussi, il en remet une couche. Allez, Diane.
Il y a eu un événement ce week-end, la Qatar.
Le Qatar Arc de Triomphe, le Grand Prix de l'Arc de Triomphe, c'est
là,
ça. Et aussi le Grand Prix de l'Amérique, c'est le Qatar.
Ah oui, ça n'a pas été boycotté, ça, pour le coup. Pas du tout.
Ils ont fait un effort, il n'y avait pas de chauffage dans les loges.
Un peu de contradiction dans ce qui a été dit. Mais avant de contredire, je vais quand même souligner que
boycotter
les fan zones, parce qu'en fait c'est surtout à travers les fan zones mises en place sur une Coupe du Monde qui va se jouer en hiver au mois de novembre.
Mais
c'est un peu faire la grève de la faim pendant
Ramadan. Il fait moins 5, il y aura tout Paris la France est en demi-finale. Faut être sérieux quand même.
Les gens, on n'est pas en Uruguay. Les gens vont pas sortir à moins 5 pour aller regarder du foot. Je te le dis.
Ah ben je te le dis, oui. On
disait
ça à l'époque.
On ira dans les bars.
Si la France est en finale,
bien sûr,
on oubliera tout.
Je suis d'accord avec Diane.
Donc déjà, boycotter les fan zones, enfin ne pas mettre des fan zones en plein hiver, je pense que c'est aussi se faire l'économie de les installer.
Il n'y a plus d'essence déjà.
Il n'y a plus d'essence. Bon, en tout cas, voilà. Là où je vais apporter une contradiction, si c'en est une, c'est de se dire que forcément, c'est bien aussi d'envoyer un signal. C'est-à-dire que, bien sûr que ça n'aura aucun effet, je pense que le Qatar s'en fout comme de l'an 40, qu'il y ait des fan zones à travers la France ou pas, mais je pense que ça reste utile d'envoyer un message et de dire.
Mais qu'est-ce qu'on reproche concrètement?
On n'est pas content.
Non, mais et dans le même jour, tu donnes les Jeux asiatiques à l'Arabie Saoudite.
Ce qui est reproché alors, aujourd'hui au Qatar, tort, c'est de pas être un pays de football qui mérite la Coupe du Monde. À la base, les choses dès le départ, c'est-à-dire que c'est encore une fois l'opulence de l'argent qui fait qu'on arrive à s'accaparer un grand symbole comme la Coupe du Monde dans un pays qui ne représente quasiment rien dans l'esprit du football. Mais on va dire, soit, on a passé ce cap-là. Maintenant, ce qu'on a reproché, c'est les droits humains. C'est-à-dire que finalement, le Qatar a mis énormément de moyens au détriment des âmes humaines qui ont travaillé. Et apparemment, il y a eu, selon le Guardian, 6500 morts. Et il y a eu beaucoup de morts. Maintenant.
Et tu oublies l'aspect écologique avec le chauffage des stades.
J'allais y venir.
Alors vas-y.
C'est-à-dire qu'à un moment donné.
Viens vite.
Me stresse pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne prendrait pas conscience que le foot business ne peut pas fouler de ses deux pieds l'humain et tout ce qui va avec? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut simplement boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Je ne suis pas dans cet état d'esprit-là parce que je pense que c'est trop tard de toute façon.
Les sportifs, c'est n'importe quoi.
Mais attention, encore une fois, je pense et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut plus jouer la Coupe du Monde. Et pourquoi pas revendiquer certaines choses et mettre en avant certaines choses et que ça fasse valeur d'exemple pour les prochaines Coupes du Monde et de se dire, voilà, d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique et d'un point de vue humain, il faut pas que le business fasse. Il faut savoir que cette Coupe du Monde va générer 6 milliards de dollars pour la FIFA.
Humain, c'était la même chose au Brésil.
Là, ce que j'étais en train de dire, c'est que ces choses-là, on parle au passé et moi, je suis en train de parler au futur.
C'est maintenant qu'est-ce qu'on fait.
Et pourquoi? Pourquoi pas maintenant
la Coupe du Qatar.
Voilà, mais évidemment. D'accord. Là, je suis en train de dire, il faut que ça fasse valeur d'exemple pour le futur. Oui, on n'a rien dit avant.
Mais c'est ce que je te dis.
On va commencer à dire.
Toto, c'est ce que je te dis, c'est que le problème, c'est que on le déplace ce problème, et que dans le même temps, le CIO, les comités continuent d'attribuer des événements à des pays qui ne sont pas en mesure de le faire.
Oui.
Voilà, les Jeux olympiques asiatiques d'hiver qui vont en Arabie Saoudite, c'est juste une énorme blague, et c'est aujourd'hui.
Même les JO tout court, c'est une dépense d'argent, niveau écologique, c'est catastrophique. On voit bien Paris aujourd'hui quand on circule.
Allez, le côté de l'on rappelle rapidement le score. Marseille.
Ça a évolué. Je crois qu'ils ont entendu Louis-Marie. Bemba qui vient d'inscrire le quatrième but.
4-1.
Donc 4-1 pour l'OM.
89e minute. Voilà. Un grand merci à Louis-Marie, à Diane et aussi le coach Toto, sans oublier Toto Bellozzo et Vivien de m'avoir accompagné. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM, 21h-23h avec Vanessa qui arrive avec son réalisateur qui n'est autre que Foudil. Bye bye et on se retrouve dès demain.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.